Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Que le shalom de Dieu le Créateur, de Jésus-Christ le Rédempteur et du Saint-Esprit le Consolateur soit avec vous. Précédemment, nous avions tiré le son du fait que les disciples ont suivi la recommandation du Sauveur et sont allés tout droit à Jérusalem dans la chambre haute après avoir parcouru une distance d'un chemin de Shabbat. Ensemble avec les femmes et la famille de Jésus-Christ, sa mère Marie et ses frères, fils de Joseph et de Marie, dont Marc l'évangéliste nous permet de connaître les noms. Marc nous dit que Jésus-Christ est le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Son frère Jacques est celui qui a écrit l'épître qui porte son nom. La période se situant entre l'Ascension et la Pentecôte a été consacrée à la prière dans la chambre haute. Bienvenue à notre émission Citoyens du ciel de la terre de ce jour que vous offre la Fondation Adonai Iri House. Nous parlerons du remplacement de Judas au sein du groupe des disciples. Un remplacement qui a eu lieu entre l'Ascension et la Pentecôte. Dans le récit lucanien de ceux qui ont été les témoins oculaires de la montée de Jésus-Christ au ciel, Luc mentionne Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Continuons la lecture du premier chapitre des Actes des Apôtres dans les versets 15 jusqu'au 26e. Le médecin Luc nous informe qu'en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont servi Jésus. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs, devine lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Nous avions compris que la période se situant entre la montée de Jésus-Christ et la descente de la puissance du Saint-Esprit a été essentiellement occupée par une vie de prière dans la chambre haute. Dans cette chambre haute se trouvait les 11 disciples, des femmes et d'autres personnes qui ont rejoint le groupe. Les statistiques lucaniennes nous parlent de 120 personnes au total. À l'image des 12 garçons de Jacob, des 12 tribus d'Israël, Jésus-Christ avait 12 disciples. Celui qui le livra s'en était allé en son lieu afin que l'écriture s'accomplisse. Pierre, le porte-parole du groupe des disciples durant le ministère terrestre de Jésus-Christ, fait preuve d'un leadership éclairé. Il était ancré dans la vision théologique de la pensée des 12 tribus d'Israël. d'Israël. C'est lui, Pierre, qui avait régné le Seigneur et qui fut restauré. Et il décida de s'adresser à ce groupe de 12 x 10 personnes pour parler de la nécessité de remplacer Judas au sein de l'équipe des disciples. C'est Judas qui a trahi Jésus-Christ en l'embrassant comme signe et action indicatrice pour ceux qui devraient arrêter le Fils de l'homme. Judas avait livré Jésus-Christ pour 30 cycles d'argent. Avant d'être pris de remords et de regretter son acte, il retourna l'argent puis alla se pendre. Les principaux sacrificateurs utilisaient cet argent pour acheter le champ du potier pour servir de cimetière aux étrangers. Matthieu le rapporte dans son 27e chapitre. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang, rappel Pierre à l'auditoire. Dans le psaume 41, verset 10, il est mentionné. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Pierre va citer le livre de psaume pour appuyer son argumentation. Dans le psaume 69, au 26e verset, nous lisons que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Et dans le psaume 109, au 8e verset, il est mentionné que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Puis Pierre donna les critères sur lesquels il faudra se baser pour faire le choix du successeur de Judas dans la tâche apostolique. Pierre dit à la foule, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pierre demande qu'on choisisse un fidèle compagnon, quelqu'un qui soit imprégné du ministère de Jésus-Christ depuis le baptême de Jean jusqu'au jour de l'ascension. Il faut que le futur apôtre puisse être quelqu'un qui a vu Jésus-Christ à l'œuvre et qui a participé de près dans la mesure du possible au ministère de Jésus-Christ. Pierre voudrait une personne d'expérience, une personne qui connaît la maison, une personne qui comprend le ministère de Jésus-Christ, une personne qui en a été témoin oculaire et qui a participé à son œuvre. C'est alors que l'assemblée proposa Joseph et Matthias, et ceci à l'approbation de tous. Ils ont été reconnus comme des personnes répondant aux critères énumérés par Pierre, des personnes pouvant participer à la sélection du remplaçant de Judas dans une attitude de recueillement. Et ceci depuis le retour du mont des Oliviers, la prière fut adressée à Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent et qui connaît les cœurs pour que lui-même puisse faire le choix et désigner le successeur de celui qui s'en est allé. Car depuis la chute au jardin d'Éden, en se conformant au logos du serpent ancien, le cœur de l'homme est tortueux. Et le prophète Jérémie l'a fait bien mentionné dans son 17e chapitre. L'éternel Dieu qui ne regarde pas l'apparence des choses, comme il avait enseigné au prophète Samuel lorsque ce dernier était en mission pour choisir David comme roi en remplacement de Saül. L'éternel Dieu choisit Matthias qui devient le 12e disciple dans la période post-ascension. Et Matthias, ensemble avec les 11, va vivre les événements de la Pentecôte. En sa qualité d'apôtre, l'assemblée a mis Dieu en priorité dans le choix du futur leader, du futur apôtre qui prendra la charge épiscopale abandonnée par Judas. La puissance du Saint-Esprit n'était pas encore là pour les orienter. C'est pourquoi ils jetèrent le sort pour savoir lequel des deux l'Éternel avait choisi pour son œuvre. Cette pratique de tirage au sort était courante dans le contexte de l'Ancienne Alliance, dans le contexte de l'Ancien Testament. Elle ne sera ni conseillée ni appliquée dans la Nouvelle Alliance. Depuis la Pentecôte, cette pratique qui consiste à jeter le sort a été abandonnée et l'Église du Seigneur est guidée désormais par le Saint-Esprit dans la prise de décision. Il en est de même de chaque chrétien à chaque niveau individuel. Plus tard, c'est le Saint-Esprit même qui va mettre Paul et Barnabas de côté. Luc nous rapporte en effet que parlant de l'Église d'Antioche, en Actes chapitre 13, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à pas Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Sous l'impulsion du leader, les disciples futurs apôtres en mission qui attendaient de recevoir toute la logistique nécessaire pour pouvoir être témoins jusqu'aux extrémités de la terre se sont donné la prière à l'action pour régler le cas de l'électeur du successeur de Judas. Nous avions toujours dit et enseigné que prier et agir sont les deux rails de la vie chrétienne. Ce sont les droites parallèles de la marche chrétienne. Prier sans agir est déséquilibré. Il est également dangereux d'agir dans la société par rechercher la volonté de Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans la prière. En effet, agir en dehors de la volonté de Dieu conduit toujours à la catastrophe, au désastre. Car si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain, nous dit le psaume 127. Ayant été avec le Christ pendant 3 années de ministère, les disciples connaissaient sa vie de prière et sa détermination à garder le contact permanent avec le Père. Et ses disciples se sont attelés au ministère de la prière dans la chambre haute parce qu'ils ont compris l'importance de mener une vie de prière. Nous devons prier et nous devons aussi poser des actions dans la communauté, dans la société pour un impact durable, pour le bien-être collectif. Dieu étant Alpha et Oméga, il faut dans la vie et dans tous les domaines tout commencer avec Dieu et tout finir avec Dieu. Ne demandons pas à Dieu de prendre le train en marche. Ne venons pas à Dieu quand nous sommes coincés sur la route. Mais cherchons dès le début à demander au Seigneur quelle route prendre en vue du développement de nos nations, de la bonne santé holistique de nos églises. Nous devons prendre en compte la parole de Dieu qui est l'ingrédient principal du développement. Aujourd'hui, comment choisissons-nous les leaders dans l'église de Jésus-Christ? Comment choisissons-nous les leaders dans nos administrations, dans la société? Sur quels critères les candidats sont-ils positionnés sur les listes électorales? Mettons-nous l'homme qu'il faut à la place qu'il faut sous la conduite du Saint-Esprit afin que ce dernier puisse œuvrer la transformation et contribuer au développement dans son secteur d'activité? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en priorité? N'est-ce pas l'ethnocentrisme, thème abordé précédemment dans une de nos émissions qui nous guide dans le choix des responsables à divers niveaux? Est-ce que nous prions avant toute décision dans l'Église de Jésus-Christ, dans la vie socio-politique et administrative? Est-ce que nous recherchons la face du Seigneur? Est-ce que nous demandons au Seigneur de tourner sa face vers nous? Est-ce que nous agissons pour le règne de Dieu? Est-ce que nous agissons pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel? Auditrice, auditeur, il est important aujourd'hui que nous nous mettions à suivre Dieu et que nous mettons Dieu à la première place, que nous recherchons la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne les moindres détails de notre vie. C'est ainsi que nous allons mener une vie glorieuse et victorieuse en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut s'approcher de Jésus-Christ pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Venez donc à Jésus-Christ ce jour. Reconnaissez-le et acceptez l'œuvre accomplie à la croix. Le Saint-Esprit, qui est l'applicateur du salut, qui convainc du péché, est prêt à vous donner sa puissance. C'est pourquoi n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui, mais plutôt soumettez-vous à Jésus-Christ. Et nous serons très heureux de vous accompagner, vous aussi dans ce processus d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme nous l'avons fait pour d'autres. Contactez-nous donc à l'adresse qui sera donnée à la fin de l'émission de ce jour. Jésus-Christ est la vérité, il est la vie et le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Que le shalom de Dieu le Créateur, de Jésus-Christ le Rédempteur et du Saint-Esprit le Consolateur soit avec vous. Nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyen du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede. Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiiriehe.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.